8h16 sur France Culture, l'heure d'À la source avec vous, donc Matteo Caranta. Chaque semaine, vous retracez le fil d'un mot ou d'une idée, aujourd'hui d'une référence régulièrement citée dans les débats sur l'implication et le degré d'implication de la France en Ukraine, l'esprit de Munich.
Oui, l'histoire avec son H majuscule, ses abords tragiques, ses mouvements de bascule et ses raisons morales est régulièrement invoquée depuis le début du conflit ukrainien, le retour de la guerre sur le sol européen. L'histoire comme une impérieuse nécessité de clairvoyance politique face aux événements, mais aussi l'histoire comme point d'attache, comme objet de compréhension, d'analogie, d'avertissement, parfois de comparaison. Et en matière de concordance des temps, les débats suscités par les récentes déclarations d'ambivalence stratégique du président Macron font régulièrement référence à un événement, son appel depuis Prague aux alliés de l'Ukraine à ne pas se montrer lâche, renvoie pour beaucoup aux accords de Munich de 1938 et à l'esprit qui en découle, l'esprit de Munich. Alors, l'histoire est bien connue, mais mérite le détour. C'est celle de la crise des Sudètes, de l'abandon par la France de son allié tchécoslovaque. C'est l'histoire d'une cécité collective face à la détermination expansionniste et belliqueuse du Troisième Reich d'Adolf Hitler. Celle aussi, et la chose à son importance, du refus du conflit armé 20 ans seulement après la fin de la guerre mondiale. Nous sommes en 1938 et depuis 1935, le chancelier Hitler bafoue les règles jugées humiliantes du traité de Versailles. Il rétablit le service militaire, remilitarise la Rhénanie, intervient auprès des franquistes en Espagne et procède au printemps de cette année-là à l'Anschluss, l'annexion pure et simple de l'Autriche dans le Reich. De leur côté, la France et la Grande-Bretagne optent pour une stratégie d'apaisement, de négociation, pour le dialogue avec le Führer. Par pacifisme, a-t-on dit, par manque d'appui politique, certainement. Reste que dans ce contexte, le pan-germanisme nazi ne semble pas trouver de limite. En septembre, Hitler revendique l'annexion des Sudètes, donc territoire tchécoslovaque majoritairement germanophone. La Tchécoslovaquie décrète la mobilisation générale partout en Europe. On redoute la guerre. Et pour l'éviter, eh bien, le 28 septembre 1938, Mussolini, Hitler, Chamberlain et Daladier se réunissent à Munich, sans les Tchèques, à Munich, berceau du nazisme. Les Sudètes sont concédés à Hitler, qui promet de s'arrêter là. Daladier et Chamberlain signent l'accord. En France, la presse est unanime, elle célèbre Daladier et l'intérêt de la paix dans le monde. La suite de l'histoire, eh bien, nous la connaissons également. C'est la violation du traité par Hitler et la Seconde Guerre mondiale, moins d'un an plus tard. Voici Munich, donc, l'abandon d'un allié, une promesse de papier avec un dictateur sans limite, la guerre inévitable à l'horizon. Churchill, prophétique, aurait déclaré « Vous aviez le choix entre la guerre et le déshonneur, vous avez choisi le déshonneur et vous aurez la guerre. »
Mais alors Matteo, l'esprit de Munich?
Eh bien, c'est d'abord une expression toujours péjorative, parfois liée à l'insulte de munichois, de munichoise, qui permet de qualifier un adversaire politique jugé défaitiste, couard, lâche. Nous revenons au vocable présidentiel. L'esprit de Munich, c'est aussi, nous disait Jean-François Revel en 1983 dans « Comment les démocraties finissent », une capitulation prophylactique, une concession faite à un tyran dans l'espoir de calmer ses ardeurs, de le contenir comme on contiendrait une maladie, une illusion sacrificielle. C'est enfin, et peut-être d'abord, explique quant à lui Michel Winock dans un livre où il s'empare de l'expression en 2013, peut-être d'abord un sentiment de panique devant le danger imminent de la guerre. Mais revenons à mars 2024, en parlant de l'esprit de défaite, l'analogie hystérique du président Emmanuel Macron est à peine masquée, il fait bien référence à l'esprit de Munich et tend ici à démontrer le besoin de rester le plus ferme possible face à Vladimir Poutine, quoi qu'il en coûte, répétait-il au chef de parti réuni jeudi à l'Élysée. Seulement voilà, septembre 1938 n'est pas avril 2024, Vladimir Poutine n'est pas Adolf Hitler et Munich n'est pas la seule analogie qui circule dans le débat public. Il y en a une autre tout aussi terrible, tout aussi tragique, c'est celle de l'été 14 où quand des hommes d'État somnambulent, le mot et de l'historien Christopher Clark, des hommes d'État somnambules, prisonniers du jeu de leurs alliances, se sont laissés glisser dans l'engrenage mortifère d'un conflit armé généralisé. Alors sommes-nous en 1938, sommes-nous en 1914? Le choix ne fait pas rêver, d'autant que dans un cas comme dans l'autre, l'issue a été la guerre mondiale. Espérons donc que 2024 ne ressemblera à aucune de ces deux dates, que les historiens et les débatteurs trouveront une autre référence de celle où la guerre totale n'a pas eu lieu, sans lâcheté, sans engrenage non plus, sans esprit de Munich.
En attendant, concordance des temps réussie. Merci beaucoup Matteo Caranta. À la source est à retrouver sur le site de France Culture, franceculture.fr et sur l'application Radio France.